L'actualité des idées aujourd'hui, l'autre Freud, avec notre invité, l'écrivain Benoît Peters. Il consacre un essai biographique à Sandor Ferenczi, fils spirituel du père de la psychanalyse, de l'auteur de l'interprétation des rêves. Né en 1873, Ferenczi, mort en 1933, le disciple hongrois a grandi dans l'ombre de Freud. Est-il parvenu depuis à s'émanciper, voire à s'affranchir de cette figure tutélaire? En quoi sa pensée ou sa pratique diffère-t-elle? Un livre pour réhabiliter cet enfant terrible de la psychanalyse, comme vous le nommez, Benoît Peters, comme il se désignait lui aussi parfois, et pour raconter à travers lui une autre page de l'histoire de la psychanalyse. Bonjour Benoît Peters.
Bonjour.
Vous êtes avec nous à distance, mais plaisir de vous avoir, non pas pour parler de bande dessinée, on avait pourtant avec nous Cyril Pedrosa dans la première partie de la Grande Table pour le deuxième volume de son Âge d'Or, mais pour parler avec vous de cette figure de la psychanalyse. Un mot de vous, vous êtes écrivain, vous êtes belgo-français, vous êtes scénariste et théoricien de bande dessinée, critique et spécialiste de Tintin, complice de François Skuiten pour la saga Les Cités Obscures chez Casterman, vous êtes donc un homme assez éclectique. Mais comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à cette figure de la psychanalyse, cet autre Freud qui est Sandor Ferenczi? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment tout a commencé? Peut-être ce cours qui va vous laisser une trace dans votre esprit, un souvenir éveillé, cette rencontre par les mots d'un professeur avec ce psychanalyste?
Oui, j'ai eu la chance, c'était il y a pas mal d'années, Ferenczi était très peu connu en France, d'avoir un professeur de philosophie, lycée Hoche à Versailles, qui nous a parlé, entre autres personnalités de la psychanalyse, de Sandor Ferenczi et de son livre Thalassa. Thalassa est le premier texte à avoir été traduit en français, et ça reste l'ouvrage le plus connu de Ferenczi, même si peut-être il dissimule les aspects les plus passionnants de son œuvre. En tout cas, ça m'avait suffisamment frappé pour que je continue à m'intéresser au fil des années au destin de tous les proches de Freud. Et c'est vrai que petit à petit, on découvrait ce que certains ont appelé la saga freudienne, cet entourage en rapport pour le moins compliqué avec le maître. Et quand le premier tome de la correspondance entre Freud et Ferenczi est paru, c'était en 1992, j'ai été immédiatement passionné par cet ouvrage où se mêlent la vie privée, la vie la plus personnelle, l'amitié, et en même temps des considérations théoriques, en même temps la psychanalyse en train de se constituer, puisque Ferenczi rencontre Freud en 1908, à un moment où la psychanalyse existe à peine.
Et pour vous, la rencontre du coup va se faire ainsi, hein, étudiant dans les années 70, tandis que ce professeur de philosophie vous parle de l'ouvrage le plus célèbre de Ferenczi, Thalassa, publié en 28, traduit en France chez Payot, ce cours qui va vous laisser dans l'esprit une petite étincelle et l'envie d'y revenir, réveillé aussi par la redécouverte de sa correspondance avec Freud sur près de 30 ans. Ce sera votre matière première pour cette biographie, Benoît Peters, car il y a assez peu d'archives disponibles. Qu'est-ce qu'il ressort principalement de cette correspondance?
Alors, c'est une correspondance immense. C'est aussi la plus intime des correspondances de Freud avec un de ses proches. On sait que Freud est un épistolier remarquable. Il a une puissance de travail énorme et presque chaque soir, il envoie 3 ou 4 lettres à des proches, à des disciples. Et ces lettres sont toutes très différentes. Mais les plus personnelles, les plus intimes, les plus chargées d'évocation familiale ou de doute sont celles envoyées à Ferenczi. Et bien sûr, j'ai tenté de retrouver côté des œuvres de Ferenczi, qui aujourd'hui sont toutes traduites, j'ai retrouvé d'autres correspondances, d'autres documents, d'autres traces qu'il a laissées, même s'il est vrai que je n'aurais pas pu écrire à son propos une biographie aussi exhaustive que celle que j'ai consacrée par exemple à Jacques Derrida, où là l'archive était immense, tout avait été conservé, beaucoup de témoins étaient encore vivants. Pour Ferenczi, il nous reste une témoin essentielle, Madame Judith Dupont, qui a aujourd'hui 95 ans, mais qui se souvient encore du jour de la mort de Ferenczi. C'était très émouvant pour moi de l'entendre. Et puis, il y a surtout des témoignages indirects qu'il a fallu collecter peu à peu, parce que longtemps, il y a eu une sorte de légende noire autour de Ferenczi. On en parlait peu, trop peu. depuis que la biographie de Freud par Ernest Jones avait laissé entendre qu'il était mort fou, paranoïaque, et que les recherches de ces dernières années étaient sans valeur et ne méritaient pas d'être publiées.
Alors on va tout de suite entendre la voix de cette femme, Judith Dupont, qui est aussi psychanalyste, éditrice et traductrice en France, traductrice française d'origine hongroise, notamment de Thalassa, de Ferenczi. On va l'écouter puisque vous l'avez rencontrée, vous l'avez interviewée, vous avez pu enregistrer. Elle répond à la question de l'importance de l'œuvre et de l'homme dans ce cercle assez fermé, on y revient, de la psychanalyse.
La première idée qui me vient, c'est qu'il a souligné l'importance de ce qui se passe chez l'analyste aussi bien que chez le patient, et l'importance de la relation entre les deux, et de l'empathie, et de pouvoir être avec. L'implication à égalité lui paraissait quelque chose de très important. Et je pense que c'est une des raisons du rejet de Ferenczi, pourquoi ça a si bien marché, les propos de Jones, qui auraient pu ne pas avoir l'impact qu'ils ont eu, c'est que ce qu'il demandait aux analystes était quasi impossible.
Alors là, on entre déjà dans sa psychanalyse, mais on comprend aussi un peu mieux qui était l'homme. Et c'est d'abord aussi là-dessus que j'aimerais vous entendre, Benoît Peters. Cette empathie qui faisait partie de ses qualités?
Oui, bien sûr. Et il y a une différence fondamentale entre Freud et Ferenczi à ce point de vue-là, c'est que Freud se définit d'abord et de plus en plus comme un savant, comme un théoricien, voire comme un philosophe en ces dernières années, alors que Ferenczi sera d'abord un soignant, un thérapeute, avec un engagement de tout son être presque sans limite, et Freud le considérait d'ailleurs comme un meilleur analyste que lui. Il se partageait donc les rôles, la tâche, et c'est notamment sur la question de la pratique psychanalytique, de la position du thérapeute, de la nécessité pour le psychanalyste d'être régulièrement analysé, que l'apport de Ferenczi est considérable. C'est certainement un des aspects les plus extraordinaires. On parle aujourd'hui beaucoup de la théorie du care, et on peut dire que de ce point de vue-là, ce rapport passionné aux soins est une dimension absolument essentielle de la pensée de Ferenczi. Alors l'homme, c'est d'abord un homme très très enthousiaste, très curieux de tout. À Budapest, où il vit dans sa jeunesse, il fréquente des musiciens comme Bartok, des penseurs de toutes sortes. Il est un médecin très engagé, mais en même temps pris dans la vie culturelle. Et quand il va découvrir l'œuvre de Freud, il a déjà 34 ans, il va être un prosélyte extraordinaire. Il sera vraiment l'introducteur de la psychanalyse en Hongrie, pour le plus grand enthousiasme de Freud, qui cherche encore à trouver des alliés à ce moment-là. Et il va y avoir, de la part de Ferenczi, qui a perdu très tôt son père, il va y avoir un investissement sur cette figure paternelle de Freud, qui rendra parfois la relation un petit peu compliquée. Ils sont à la fois collègues, complices, amis, quelquefois rivaux sur le plan intellectuel, mais il y a aussi cette position de disciple dont Ferenczi va mettre très longtemps à se défaire. Et quand Lou Andrea Salomé, grande figure de l'époque et aimée par Freud, quand Lou Andrea Salomé rencontrera pour la première fois Ferenczi, elle sera impressionnée par la puissance de sa pensée, mais en même temps par une sorte de timidité qu'il y a chez lui et qui ne lui permet pas encore d'écrire l'ensemble de ses réflexions.
Et elle dira, le temps de Ferenczi doit venir. Ces mots, vous les retranscrivez dans ce livre, Benoît Peters, que vous nous livrez aujourd'hui, cette biographie de lui chez Flammarion. Le temps de Ferenczi est-il enfin venu? On va essayer de comprendre si il peut exister aujourd'hui, enfin, un peu moins en miroir avec Freud, par sa simple pensée pratique, par sa psychanalyse à lui. Mais d'abord comprendre qui est l'homme, comment il s'est formé, comment ils se sont rencontrés avec ce père spirituel que fut aussi pour lui Freud. Il est issu d'une famille de juifs polonais installés en Hongrie. Il est médecin de formation, vous l'évoquiez, c'est un grand lecteur, un passionné de théâtre. Ils ont en commun avec Freud une passion pour l'archéologie. S'il était spécialiste, dira un de ses amis de jeunesse, c'était de la vie qu'il l'était, Sándor Ferenczi. Ce qu'on sait de l'homme, c'est bien peu de choses, ou on arrive beaucoup mieux aujourd'hui. Vous parvenez, notamment à travers cette correspondance, à l'incarner, à l'illustrer.
Oui, je crois qu'on sait à travers la correspondance avec Freud, avec la correspondance avec Georg Grodeck, une autre figure un petit peu hétérodoxe de la psychanalyse, on sait quand même pas mal de choses. On sait notamment que dans cette époque où la psychanalyse commence à se construire, où Freud cherche à l'affermir avec de nouveaux disciples, beaucoup de concepts et de techniques ne sont pas encore au point. Il y a notamment des interférences permanentes entre vie personnelle et travail analytique, et Ferenczi vivra de ce point de vue-là une histoire tout à fait extraordinaire, puisque lorsque Freud le rencontre, Ferenczi a une maîtresse depuis plusieurs années, mais qu'il ne désigne pas encore sous son nom, parce que c'est une femme mariée, donc il protège un petit peu leur liaison. Et cette femme, Gisela, va très tôt se passionner pour la psychanalyse et entrer en relation avec Freud et avoir avec lui des très très bonnes relations. Elle est de 8 ans plus âgée que Ferenczi, et il se trouve qu'à un moment donné, la fille de cette femme, une jeune fille, Elma, a de gros problèmes psychologiques, et Ferenczi la prend en analyse. La jeune femme tombe bientôt, c'est une situation relativement classique et courante, tombe bientôt amoureuse de Ferenczi, mais cet amour est réciproque. Et Ferenczi, comme la jeune Elma, ont le sentiment qu'il s'agit de bien plus que ce qu'on va appeler un amour de transfert. Mais quand Freud entend que cette relation a en quelque sorte dérapé, quitté le cadre de la thérapie, il dit à Ferenczi d'interrompre immédiatement les séances, de lui envoyer de Budapest à Vienne la jeune fille, et il commence par poser un diagnostic extrêmement dur sur cette jeune fille, voyant chez elle des traces de démence précoce, un terme de l'époque pour désigner la schizophrénie, ce qui évidemment refroidit un petit peu Ferenczi. Et malgré cela, cette histoire d'amour va persévérer pendant un moment, tandis que Freud continuellement tentera de persuader Ferenczi d'épouser plutôt la mère. Et il faudra une dizaine d'années pour que cette situation se résolve, et hélas se résolve assez mal, puisque finalement l'ensemble des protagonistes en seront malheureux. Freud, parce qu'il aura l'impression d'avoir altéré son amitié et sa relation professionnelle avec Ferenczi. Ferenczi, parce qu'il gardera une petite rancœur. La jeune femme, Elma, parce qu'elle va faire un mauvais mariage et divorcer très vite et rester toujours fidèle à une certaine idée de Ferenczi. Et Gisela, la maîtresse qui finira par épouser Ferenczi, pensant aussi que peut-être il aurait été mieux que Ferenczi épouse sa fille et puisse avoir des enfants avec elle. Je pense que cet événement, qui pourrait ressembler à une histoire presque banale de confusion des divans et de confusion des sentiments, cette histoire va éclairer beaucoup toute la pratique de Ferenczi et sa manière après de considérer la relation thérapeutique. Il y aura sans doute toujours une sorte de regret de ce qui a été manqué à ce moment-là, et de son côté à lui et de celui de Freud par la dureté dont il a fait preuve.
Voilà, d'une forme de quoi ? De distance qu'il n'aurait pas su garder, parce que ce triangle Freud, Ferenczi, Gisela révèle ça aussi. Hein,
et Elma, ce quatuor, Elma, oui. Ouais. On a l'impression parfois d'être dans un roman d'Henry James, à d'autres moments cynisme mis à part dans les liaisons dangereuses, mais c'était un amour sincère, et cela dira aussi peut-être de la part de Ferenczi cette place nécessaire de l'analyse, d'un engagement de tout son être qui ici n'a pas pu aboutir et qui peut-être avait en quelque sorte dérapé, mais qui fera qu'il témoignera par rapport à ses patients et ses patientes dans les dernières années d'une empathie extraordinaire, qu'il se mettra dans l'attitude de celui qui d'abord écoute avant de poser un jugement ou une interprétation. Et c'est là-dessus notamment que se fera dans les dernières années la rupture, il faut bien le dire, la rupture avec Freud et plusieurs de ses disciples. Elle se fera sur une question centrale et pour nous extrêmement forte, qui est jusqu'à quel point on doit croire ce qui est dit par les patients ou les patientes du côté des traumas enfantins. Freud les avait d'abord considérés dans sa jeunesse, au tout début de la psychanalyse, quand la psychanalyse était en train de se construire, et puis à un moment, il renonce à ce qu'il appelle ses neuroticas, sa théorie de la séduction, et il pense que les abus subis pendant l'enfance, dont beaucoup de patientes lui ont fait peur, sont plutôt des fantasmes. Freud considère qu'il n'y a pas de signe de réalité dans l'inconscient, donc on ne peut pas savoir si les faits sont vrais ou pas. Il est certain que au moment où ces théories sur les abus, la fréquence des abus dont pouvaient être victimes ces patientes, au moment où Freud les exprimait, ça lui avait valu un rejet très fort de toute la bonne société viennoise parce que il y voyait une fréquence considérable. Et Ferenczi, à la fin de sa vie, va revenir sur cette idée, va partir de l'idée que le trauma mérite d'abord d'être entendu, parce que c'est le déni du trauma par les adultes environnants qui a renforcé le traumatisme, qui a perturbé profondément la personnalité de l'enfant. Et il va y avoir chez Ferenczi un retour sur cette théorie écartée par Freud. Aujourd'hui, évidemment, et depuis qu'on sait le nombre d'abus qui ont été commis, que ce soit dans le milieu de l'église, dans celui du sport ou dans bien d'autres, hélas, on revient aussi à Ferenczi de ce côté-là et on pense que l'écoute et l'attention qu'il a manifestée au traumatisme est un des points les plus forts de son œuvre.
Voilà, Freud sera à la fois le maître et le confident. Vous racontez la rencontre, mais vous racontez aussi, Benoît Peters, deux voyages importants. Le premier, peut-être fondateur, aux États-Unis en 1906, où Ferenczi va accompagner Freud, alors qu'il n'était pas à l'origine invité pour y donner une leçon. Mais pendant ce voyage, les relations entre Freud et Ferenczi vont devenir plus personnelles. Et puis il y aura le voyage en Italie, dont on va reparler, où les premières frictions, les premières tensions vont apparaître. Et à l'origine, donc, il y a cette relation entre les deux. On va écouter les mots de l'historienne de la psychanalyse, Elisabeth Roudinesco. Où est-ce qu'elle place Sandor Ferenczi dans la galaxie des disciples de Freud? On l'écoute.
Il y avait deux disciples, je dirais, les plus proches de Freud, qui étaient comme ses fils et qui étaient aussi sortis tout droit de Vienne, Budapest. C'est Ranke et Ferenczi. Ferenczi était essentiellement un extraordinaire clinicien, qui avait un sens de vouloir guérir les patients. C'est celui qui avait une espèce de féminité, qui était à lui tout seul le mouvement psychanalytique au début, notamment à Budapest, qui s'intéressait à tout, à l'émancipation des homosexuels, aux mythes, à la littérature comme au Torrent. C'était des personnages d'un imaginaire absolument extraordinaire. C'était les disciples les plus proches de Freud, du point de vue de l'amitié, de la connivence au début du XXe siècle.
Voilà, Otto Rank et Sandor Ferenczi, campés par l'historienne de la psychanalyse Elisabeth Roudinesco dans la galaxie Freud, ce qui nous amène à questionner, après l'homme, quel psychanalyste était-il Ferenczi à l'instant? Elisabeth Roudinesco disait moderne, hein, jusque dans sa défense de l'homosexualité à l'époque, passionné par un tas de choses, et notamment par l'hypnose, très curieux de ces nouvelles pratiques ou de ces nouvelles méthodes. Il va obtenir la première chaire universitaire de psychanalyse en Hongrie en 1919. C'est ce qu'on pourrait dire un réformateur, Benoît Peters.
Oui, c'est quelqu'un qui ne cesse de chercher, qui pose le doute d'ailleurs comme le point de départ de toutes les thérapies et de tout le travail psychologique, psychiatrique et psychanalytique. Dès sa jeunesse, avant même la rencontre avec Freud d'ailleurs, il dit « un médecin devrait être capable de reconnaître une erreur de diagnostic, il n'y a pas de honte, il faut être capable à chaque instant de réajuster un traitement ou un diagnostic ». C'est une position un petit peu différente de celle de Freud, qui craint à chaque instant que son autorité ne vacille. Il va y avoir aussi dans le groupe hongrois qui se développe autour de Ferenczi une réflexion plus audacieuse et plus moderne que celle de Freud sur la question de la sexualité féminine. Il y a beaucoup de femmes psychanalystes autour de lui. D'ailleurs, Ferenczi a été le premier analyste de Mélanie Klein et c'est lui qui l'a encouragé à devenir analyste. Donc il y a une forme d'audace, mais cette audace longtemps fait grand plaisir à Freud. Il a toujours ce rapport un petit peu ambivalent à ses disciples, que ce soit Rank ou Ferenczi ou quelques autres, c'est que Freud les encourage à développer une pensée personnelle, et en même temps, on a l'impression que cette pensée personnelle doit rester dans un cadre qui est celui qu'il a défini, et il a très rapidement peur d'une trahison. Et au moment où Rank et Ferenczi vont écrire un petit livre, d'abord très encouragé par Freud, qui s'appelle « Perspective de la psychanalyse » et qui envisage notamment de nouvelles voies pour la pratique analytique, et il va être question par exemple de la formation de l'analyste. Au départ, les analystes n'étaient pas tous analysés, et Ferenczi va considérer que c'est évidemment un élément tout à fait déterminant, essentiel. Au départ, Freud encourage cette recherche, et puis, quand il lit la version finale, il a un peu peur, et marque ses distances. Donc il est difficile d'être créatif intellectuellement à côté de Freud, car ses encouragements sont toujours quelque peu ambivalents. Et Ferenczi tient plus que tout à rester dans l'amitié de Freud, dans l'appartenance à la psychanalyse. Il est celui qui a voulu avec Freud la création de l'Association psychanalytique internationale, et donc qui a contribué beaucoup à constituer le mouvement. Mais en même temps, Ferenczi de plus en plus va exprimer ses singularités, non pas dans des ouvrages, car il a finalement écrit peu de livres, mais dans des articles souvent très très remarquables, et puis tout à la fin de sa vie dans un livre un peu difficile, mais qui est peut-être son chef-d'œuvre, peut-être le plus moderne, qui s'appelle Le Journal clinique, et où là, au gré du travail avec ses patients, on voit de nouveaux concepts s'esquisser, et on voit aussi Ferenczi revenir sur sa relation avec Freud et sur ce qu'il y a eu peut-être d'empêché. Voilà. Mais n'oublions pas que pendant des années, ce sont des voyages partagés, ce sont des nouvelles familiales échangées, ce sont des relations extrêmement proches.
Ferenczi, oui, est cette correspondance,
passe le plus de vacances avec lui.
Oui, cette correspondance de près de 30 ans a été quand même longue entre les deux hommes. C'est un récit pas compliqué à lire. Le vôtre, Benoît Peters, très incarné, très illustré, portrait de cet homme que vous faites de Sandor Ferenczi, ce fils spirituel, ce disciple de Freud, au contraire de ce dernier livre de lui que vous évoquiez, récit à la fois très subjectif et très imagé de ce personnage assez haut en couleur, qui a mis du temps à trouver son indépendance, son autonomie en termes de pensée, mais qui a réussi à camper à son tour une vraie branche, à incarner une vraie branche de la psychanalyse. France Culture, il est 13h19.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
C'est peut-être pour ça qu'après des biographies de Derrida, de Raoul Ruiz ou encore de Hitchcock, de Hergé, de Paul Valéry, vous êtes allé, vous, Benoît Peters, l'écrivain, scénariste, biographe, mettre un pied dans ce cercle très fermé et où la polémique va souvent en bon train de la psychanalyse. La polémique, les amitiés, les inimitiés, les trahisons, elles étaient déjà à l'œuvre dès les débuts de la psychanalyse. C'est une histoire qui est en train de s'écrire, très, très balbutiante encore, un savoir en construction, celle que vous racontez du temps de Sandor Ferenczi. On est au tournant du XXe siècle, la psychanalyse est née dans l'affrontement des pionniers, d'une confrontation. Son histoire commence là, à Vienne, place forte en Europe de la psychanalyse. On va écouter un extrait de La Grande Traversée, Freud, de Christine Le Cerf, à écouter sans fin, avec ce témoignage de l'historien Jacques Le Rieder.
Ceux qui viennent à cette société du mercredi, ce sont les premiers amis et disciples de Freud. Les premières séances, c'est vraiment les chevaliers de la table ronde autour du roi Arthur. Et puis, au fil des années que dure cette société du mercredi, qui se transforme en Société psychanalytique de Vienne, il y a des départs fracassants, des portes claquées, des exclusions. Une des premières et des plus retentissantes de ces brouilles, c'est celle avec Alfred Adler, qui ne supporte pas, au fond, l'hégémonie intellectuelle de Freud.
Voilà, l'hégémonie intellectuelle de Freud, qui n'aimait pas beaucoup être contestée sur ce point-là, notamment. Bienvenue à la cour, c'est déjà une histoire de pouvoir, hein, de séduction, d'amitié, de rupture à l'époque. Quelle relation Freud entretient-il avec ses disciples? Vous l'évoquiez, mieux valait le suivre et l'écouter, on l'entend. Sur la couverture de votre livre, Benoît Peters, il y a cette photo des deux hommes assis. Ferenczi regarde Freud, Freud regarde au loin, perdu dans ses pensées. Ils ont dû marcher, probablement, ils ont chacun une canne à la main. Cette relation entre les deux, elle a toujours été asymétrique?
Asymétrique, oui, il y a une différence d'âge importante. Freud est un maître, en même temps une figure paternelle, non contestée pendant longtemps par Ferenczi, et en même temps c'est un ami. D'ailleurs, la correspondance est tout à fait symptomatique de ce point de vue-là. Les lettres de Freud à Ferenczi commencent toujours par « cher ami » et celle de Ferenczi à Freud par « cher monsieur le professeur ». Deux ou trois fois tout de même, Ferenczi emploiera le « cher ami ». Et lorsque la relation commencera à devenir plus intermittente, vers la fin des années 20, quand Ferenczi écrit un peu moins régulièrement, Freud se plaint, se sent délaissé, se sent trahi. Il faut voir que, d'abord, Freud a été hanté très tôt par l'idée de sa mort prochaine, et donc l'idée qu'une mort précoce imposait de trouver un successeur. À un moment, il a pensé que ça pouvait être Jung. La rupture entre les deux hommes sera violente, donc il va investir beaucoup sur Ferenczi. Et puis, à partir du début des années 20, Freud est rongé par un cancer de la mâchoire, des opérations en cascade, des prothèses qu'on lui met qui rendent la parole extrêmement difficile. Et donc, ce qu'il faut imaginer aussi dans le moment où la relation se tend un peu, c'est que les causes objectives de souffrance pour Freud dans cette Autriche-Hongrie qui s'est défaite au milieu des difficultés économiques, avec de part et d'autre en Hongrie comme en Autriche la montée de l'antisémitisme, il ne faut pas du tout imaginer Freud comme un personnage triomphant et ingrat. Il se débat lui aussi dans les difficultés, parfois Ferenczi, dans sa demande d'affection, d'amour, de reconnaissance, peut sembler un peu difficile, un ami un peu difficile, et Freud souvent est d'une grande générosité avec lui. Donc je ne veux en aucun cas dans ce livre jouer, ce serait ridicule, un Ferenczi contre Freud ou
non,
un Ferenczi
mais on se demande...
à la place de Freud.
Oui. Mais vous racontez quand même aussi l'amitié avec Otto Rank, dont parlait à l'instant Elisabeth Roudinesco, cette amitié entre Ferenczi et Rank qui a pu être perçue comme une menace, cette amitié des deux disciples par rapport à Freud. On se demande, parce que c'est aussi un classique du genre, à quel moment Ferenczi a voulu tuer le père, a voulu dépasser le maître.
Dépasser le maître, je ne sais pas, mais exister pleinement à côté de lui. Alors, il y a un rêve d'amitié fusionnelle et d'entente intellectuelle totale chez Ferenczi qui ne peut pas trouver un plein écho chez Freud, parce que Freud a eu une amitié de jeunesse essentielle. C'est un flashback, un chapitre que je raconte dans mon livre et qui, je crois, est essentiel pour comprendre la relation. C'est l'amitié de jeunesse de Freud avec Wilhelm Fliess. Wilhelm Fliess est aujourd'hui considéré comme un charlatan, quelqu'un avec des théories sur le nez notamment et sur les nombres qui nous paraissent extravagantes. Mais pour Freud, il était comme l'alter ego, celui qui a assisté à la naissance de la psychanalyse, au début des réflexions sur le rêve. Et dans cette amitié où Freud était le dominé, cette amitié de jeunesse, mais pas de prime jeunesse, quelque chose s'est passé qui ne pourra pas se répéter, qui créera une sorte de méfiance ou de repli de Freud. Et Ferenczi, très tôt, dès le voyage en Amérique, dès le voyage en Sicile de l'année suivante, pointera cette grande ombre de Fliess comme pesant sur leur relation. Le moment où Freud n'était pas encore le grand Freud, où Freud n'était pas sûr d'accoucher d'une grande œuvre. Et depuis, eh bien, il s'est en quelque sorte carapacé. Quelque chose de sa personnalité ne peut plus ou ne veut plus s'ouvrir tout à fait.
Benoît Peters, il nous reste peu de temps, mais vous avez évoqué l'un des sujets de division, la pomme de discorde, la question de la rupture entre Freud et Ferenczi. Ferenczi sur la question des abus des enfants et le débat au sein de la communauté psychanalytique sur cette question-là. Aujourd'hui, on commémore l'armistice de 1918, signé un 11 novembre. Cette guerre, Ferenczi, elle l'a connue. Hein. Il a été médecin auxiliaire dans l'armée, je crois. En tout cas, il a beaucoup travaillé, lui, sur cette question des traumatisés de guerre, de la Première Guerre. C'est important peut-être de rappeler sa pierre à l'édifice sur ce sujet.
Alors ce concept développé assez largement par Ferenczi, c'est celui des névroses de guerre. Il se trouve qu'il y avait chez des soldats ou des officiers qui n'avaient pas été directement blessés, des comportements qui étaient considérés comme de la simulation par beaucoup et qui valaient des sanctions à ces militaires. Et donc Ferenczi va utiliser la psychanalyse pour développer ce concept de névrose qui produisent des symptômes, des troubles obsessionnels, des choses comme ça. Et ça va être pris très très au sérieux par des médecins et des militaires et des politiques qui étaient désemparés. Et ça vaudra à la psychanalyse à la fin de la Première Guerre mondiale, en Hongrie surtout, mais aussi en Autriche et en Allemagne, une popularité soudaine. C'est-à-dire que des gens qui ne voyaient dans la psychanalyse, au fond, que l'exploration des secrets d'alcôve, tout d'un coup se rendent compte du rôle que l'inconscient peut avoir par rapport au corps, par rapport au comportement humain. C'est un des apports importants. Il y a un moment où, d'ailleurs, Freud verra en Budapest la potentielle capitale de la psychanalyse. Et là, ça ne durera pas. Il y aura un régime extrêmement dur, celui de l'amiral Horthy, qui va triompher dès les années 20, régime extrêmement antisémite, avant même le triomphe du nazisme en Allemagne. Et ça, c'est aussi une des questions, évidemment, c'est que le milieu autour de Freud, c'est un milieu de penseurs et d'amis et de thérapeutes juifs qui se demandent régulièrement comment ouvrir la psychanalyse. Et il se trouve que le grand ennemi de Ferenczi, ce sera Ernest Jones, qui est un Gallois, qui est le seul non-juif de ce petit groupe et qui, pour des raisons diverses, aura des comptes à régler avec Ferenczi, son ancien analyste, et développera cette légende noire qu'on mettra très 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 longtemps à dissiper. Il a fallu longtemps pour que les derniers textes soient édités.
Voilà, merci beaucoup Benoît Peters. Pardon, je vous coupe, mais il est l'heure de se quitter. Tout est à retrouver dans ce très beau livre que vous lui consacrez, non pas en noir et blanc, mais en bleu et blanc. Benoît Peters, c'est chez Flammarion, Sandor Ferenczi, l'enfant terrible de la psychanalyse. Vous y revenez, on l'aura compris, sur sa relation avec Freud, cette capacité qu'on peut avoir aussi aujourd'hui à les penser séparément, à les désolidariser. Puis bien sûr, on n'a pas parlé de Lacan, mais il apparaît aussi dans ces pages. Je voulais juste signaler encore La fièvre d'Urbicande, l'édition couleur qui vient de paraître chez Casterman. C'est vous au scénario, Benoît Peters, au dessin François Squitten, aux couleurs Jacques Durieux. Et c'est un petit trésor pour les amateurs de la saga des cités obscures. Un grand merci à toute l'équipe, à Félix ici Faugère avec Laurie Vachon à la réalisation et à la technique, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour la grande table des idées, à Auriane Delacroix avec Henri Leblanc pour la grande table culture, c'est Madeleine Martineux et Anouk Delfino qui nous ont aidés à préparer cette émission. Je vous renvoie bien sûr vers la grande traversée de Christine Le Serre consacrée à Freud pour en savoir plus. Je vous dis à demain pour une dernière grande table de la semaine avec Zabou Bretman dans la première partie de l'émission et Fabien Jobard pour parler de maintien de l'ordre dans la seconde.